Bienvenue dans Start to Scale, le podcast du Media Tribes qui vous donne accès aux conseils des meilleures startups pour aller plus vite. Je suis Eric Seclet et mon but, c'est de vous partager des méthodes actionnables, des retours d'expérience concrets et des bonnes pratiques éprouvées par les meilleurs entrepreneurs et employés de scale-up de la tech française. Mais juste avant de vous laisser avec votre mentor du jour, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcasts. C'est la plus belle des récompenses pour toutes les heures de travail effectuées chaque semaine. Allez, bonne écoute! Allez, c'est parti, nouvel épisode de Start to Scale. Aujourd'hui, je reçois pour la troisième fois Jordan, le cofondateur du collectif Bulldozer. Bienvenue, Jordan.
Bah, merci encore et encore.
T'es un habitué maintenant. On a fait deux super épisodes ensemble, un sur le social selling et un autre sur l'alignement sales et marketing. Et aujourd'hui, on va parler, on va dire, d'un autre sujet encore. On va parler acquisition. Et alors, c'est marrant, on a, sur l'épisode du social selling, je dirais que c'est un phénomène qui est plutôt en vogue, mais on en oublierait presque d'autres canaux un peu plus tradis. Alors justement, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on a à notre disposition justement pour pas mettre tous ses œufs dans le même panier ?
En fait, quand on fait du digital, et notamment quand on navigue dans l'univers startup, on va dire, on peut être un peu tenté d'envisager absolument tout sous le prisme du digital. Et donc généralement, le marketing, il y a un peu quatre grandes catégories pour faire de l'acquisition. Il y a la partie social. Donc social, c'est donc on peut parler du social selling, on peut parler de tout ce qui est social ads, etc. Ensuite, il y a la partie search. Donc search, Google, Bing, etc. Ou même on peut mettre YouTube limite. Enfin YouTube, c'est un peu à la limite entre le social et le search, mais bon bref. Ensuite, on a tout ce qui est partie outbound. Et donc, la partie outbound, ça va être cold email, typiquement, pour vraiment rester dans la partie digitale. Bon, ça peut être aussi du cold call, mais si on reste dans le digital, ça va être typiquement le cold email, du LinkedIn, ce genre de choses, des automatisations, blablabla. Et puis, toute la partie emailing, ce que j'appelle emailing, ça va être de l'envoi en masse de, je sais pas, ça peut être de la newsletter, des choses comme ça.
Ce qui est nurturing.
Exactement, nurturing, tout à fait, voilà. Et à l'intérieur de ces catégories, en fait, on envisage toujours les mêmes canaux. C'est-à-dire Facebook, Insta, LinkedIn, blablabla. Et en fait, la réalité, c'est qu'il y a des leviers plus traditionnels, comme tu l'as dit, qu'on exploite très très peu, mais qui sont très puissants. Donc, je t'en donne quelques-uns que je m'étais noté et que j'ai eu l'occasion d'expérimenter. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est important d'en parler. Il y a typiquement le courrier ou les SMS en outbound. Alors généralement le SMS, les gens l'envisagent vraiment comme du coup un peu en mode nurturing, tu sais, c'est les SMS que tu vas recevoir, superbe promo, auto-répare, je sais pas quoi, tu vois. Non, là ça pour moi c'est la réclame, moi j'appelle ça la réclame, c'est la promo, le machin. Mais en fait le SMS tu peux aussi l'utiliser de la même manière que tu vas cold call quelqu'un en fait, et tu vas lui dire bonjour, j'aimerais vous présenter, c'est pas ça les scripts, hein, mais j'aimerais vous présenter mon offre. En fait tu peux très bien envoyer un SMS en disant bonjour, j'aimerais bien vous présenter mon offre, quand est-ce que vous êtes disponible pour qu'on s'appelle. Donc il y a ce truc là le courrier de la même façon. Le courrier, aujourd'hui, les gens, ils pensent à des brochures. Bah non, en fait, tu peux envoyer un vrai courrier qui va susciter de l'intérêt, etc. Pour prendre du rendez-vous. Et ça, vraiment sous-côté. Vraiment sous-côté. Et après, en outbound, ou pour du nurturing, il y a aussi les messages vocaux. Ce que j'entends par messages vocaux, c'est pas le truc un peu intempestif où, tu sais, tu te retrouves dans une conversation WhatsApp avec toute ta famille et puis tout le monde s'envoie des messages vocaux et qui durent deux secondes où la personne va dire « D'accord !» Non, je parle de messages vocaux dans ta boîte vocale de ton téléphone. Tu sais, des fois, tu vas recevoir « Ce numéro a tenté de vous joindre, il vous a laissé un message vocal. » Tu appelles ta messagerie et puis là, tu as un message vocal à écouter. Donc moi, quand je parle de message vocal, je parle de ce canal-là. En fait, souvent, les gens n'y pensent pas pour une raison assez simple, c'est qu'ils ne savent même pas que c'est possible d'automatiser l'envoi de ces messages-là.
Tu utilises un outil particulier là-dessus ?
Il y en a plusieurs, mais en fait, il y a, par exemple, moi, j'aime bien utiliser AllMySMS, qui envoie du coup du texto de manière automatisée et qui te permet aussi d'envoyer du message vocal automatisé. Bon, moi, c'est l'outil que j'utilise, mais après, il y en a plein d'autres. Je ne veux pas faire de la pub particulièrement pour cet outil-là. Il y en a plein d'autres. Mais en fait, c'est hyper puissant. Pourquoi ? Parce que la personne, elle reçoit réellement une notification qui lui dit « Ce numéro a tenté de vous joindre et a laissé un message vocal. » Donc toi, tu te dis, ah mince, j'ai raté un appel. T'écoutes le message, et puis en fait, ben, tu vois, c'est oui, bonjour, je suis Jordan de Bulldozer, blablabla. Et j'ai tenté de vous joindre, merci de me rappeler. Et en fait, ça, donc pour de l'acquisition, mais surtout pour du nurturing, oui, j'ai tenté de vous appeler, j'ai pas eu de nouvelles, je vous envoie un message, je vous envoie un mail en parallèle. Bah ça, c'est des trucs pour faire du nurturing. C'est un rappel de la voix de la personne, ça rend la chose très humaine. Donc ça, ça peut être vraiment très puissant. Faut avoir en tête que le courrier, si je reviens là-dessus, on en reçoit de moins en moins. Moi, je veux dire, chez moi, je reçois assez peu de courriers. Et donc, quand je reçois du courrier, je l'ouvre. En fait, c'est bête, mais le courrier, je l'ouvre. Y a des emails, je les ouvre pas. Les SMS commerciaux qu'on reçoit, généralement, c'est des trucs hyper automatisés, ça se voit encore une fois, comme je disais, la réclame. Bah, si on travaille de la même manière que, exactement le même travail qu'on fait sur du cold email, où on n'a pas envie que le cold email, il passe pour quelque chose d'automatisé, donc on essaye vraiment d'engager la conversation avec la personne et tout, bah, on peut faire exactement ce même travail côté SMS, et ça fonctionne. Et enfin, les messages vocaux commerciaux, on n'en reçoit pas. Et tes messages vocaux, c'est pareil, tu les écoutes. Enfin, à part certaines personnes. Et donc, le truc, c'est que tout ça peut s'automatiser. Les gens le savent pas forcément. Et donc, ça peut être très, très puissant de faire ça parce que bah, ça s'intègre un peu dans... Si on réfléchit... Moi, j'aime bien raisonner en termes d'écosystème. Parce que voilà, les gens souvent, et c'est un peu l'attribution qui a mindfuck les gens, c'est ah oui, mais du coup, comment est-ce que je peux savoir que c'est mon message vocal qui a eu un impact? Oui, non, mais oublie le fait de raisonner en termes purement héroïstes, tu vois, de voilà le ROI de mon message vocal. Non, en fait, il faut que tu raisonnes sur le ROI global de l'écosystème que tu es en train de créer. Et dans ton écosystème global, il y a du multi-touch qui est important, il y a le fait d'utiliser différents médias, donc le média écrit, le média de la voix, le média de la visio, parce que à un moment donné tu vas faire une visio ou du rendez-vous physique ou du papier, du toucher. En fait, si tu travailles sur tous ces différents éléments, sachant que c'est des choses qui peuvent être automatisées, et eh ben en fait t'es en train de créer un écosystème qui est favorable à l'engagement, à la conversation et à, in fine à la conversion, quoi.
Au final, moi ce que je retiens de ça, c'est que tu vas capter, on va dire, des gaps laissés par les concurrents, et il y a le côté effet de surprise qui fait que derrière, bah, tu sors du lot, t'as un meilleur taux d'ouverture, et en plus de ça, c'est des canaux où t'as un côté personnalisation qui est quasi obligatoire. Enfin, tu peux pas. Enfin, il y a, j'imagine, des moyens de faire de la personnalisation un peu at scale, mais ça te pousse aussi à être meilleur dans ton approche.
Tout à fait, exactement. Alors, il s'avère que la personnalisation, par exemple, dans un message vocal, ça va pas être possible. Parce que t'es en train de parler, t'envoies le même message à tout le monde, et du coup, tu peux pas dire « Salut Eric ». Sinon, tout le monde
sauf
va recevoir
si «
Salut Eric ».
500 Eric dans ta base, quoi.
Voilà, sauf si t'as 500 Eric dans ta base. Bon, après, ça demande un peu du taf de préparation, mais je veux dire, c'est possible. Et donc, effectivement, là où je trouve, personnellement, c'est débattable, mais moi, je trouve que la personnalisation... c'est un peu surcoté parce que les gens en font un peu n'importe quoi. Et aujourd'hui, en fait, les gens font tellement n'importe quoi avec la personnalisation que c'est censé donner l'illusion que c'est personnalisé. En fait, tu vois clairement que c'est automatisé. Et en fait, oublier l'automatisation, ça te permet de tomber beaucoup plus dans des choses conversationnelles, etc., beaucoup plus naturelles, selon moi, en tout cas de mon expérience. Et donc là, bah, tu vois, effectivement, ça te permet de te poser sur bah, ça va être quoi mon script, ça va être quoi mon approche, etc.
Complètement. Et juste pour rebondir sur ce point-là, j'imagine que tu as une objection qui doit être fréquente et qui peut-être justifie aussi le fait que les boîtes se mettent pas trop dessus, c'est « Ah ouais, mais j'ai peur d'être intrusif. » Qu'est-ce que tu dis à ça ?
Bah, tout est dans l'approche, en fait. Tu sais, en fait, le truc, c'est que si demain, je t'envoie un texto... tu vois, qui te fait gagner de l'argent. Tu vois, je t'envoie un texto et je te connais pas et je te dis, bah tiens, je te donne 10 euros. Bah, t'as été intrusif, mais ça a pas été un problème pour la personne. Tu vois. Donc en fait, oui, théoriquement, t'es quelqu'un d'intrusif, mais après, t'es pas obligé d'être quelqu'un de lourdingue. Tout est une question d'approche. Et parfois, bah, les approches, elles font plaisir aux gens, en fait. Et du coup, après, bon, je peux peut-être tout de suite te donner, te donner un exemple.
Allez.
Parce que j'avais un exemple en tête que je voulais te donner, qui était, En fait, il faut garder en tête aussi que ces leviers un peu traditionnels, ils viennent aussi régler un problème pour certaines boîtes qui viennent toucher des métiers plus traditionnels, encore une fois. Et par métier traditionnel, j'entends, je sais pas, là dans mon exemple, c'est les métiers, les artisans. Les artisans, ils sont pas sur LinkedIn, ils regardent assez peu leur email. Et donc, en fait, comment est-ce que toi, si ta cible, c'est les artisans, comment est-ce que tu vas aller les toucher? Et donc, là, ça devient beaucoup plus logique d'utiliser des moyens plus traditionnels. Mais je prends cet exemple-là, mais c'est aussi pour... Enfin, ce que je veux faire passer comme message, c'est que c'est pas parce que tes clients, ils sont très digitales qu'il faut oublier ces trucs traditionnels. Mais en tout cas, pour les artisans, tu peux même pas les considérer. C'est une boîte qui fait... C'est une boîte avec laquelle j'ai bossé qui faisait de l'enlèvement de gravats sur les chantiers. Cette boîte... En gros, nous, on a un peu testé plein de canaux, plein d'approches, etc. pour, du coup, essayer d'attirer l'attention des artisans. Les artisans, ils regardent... on a testé du courrier, ça n'a pas marché. On a testé du Facebook, du Instagram, etc. En se disant, sur le chantier, ils ont leur smartphone quand ils font une pause, etc. Bon, il s'avère que la majorité, en fait, ils ont des téléphones de chantier. Ils n'ont pas Facebook, Insta, etc. Et donc, on a testé plein de choses. Et à la fin, en fait, ce qui a fait la différence, ça a été le texto. Et en fait, le texto, ce qui a vraiment fait la... On peut dire que c'est intrusif. Il n'empêche que on a trouvé la bonne offre à leur proposer par texto. Et donc, la bonne offre, c'était quoi? C'était, c'était donnez-nous l'adresse, votre adresse, de là où vous vous trouvez en ce moment. On débarque sous 30 minutes pour vous enlever vos gravats. Voilà. Donc, toi, ça ne te coûte rien. Ça coûte rien. Au pire, tu vois, tu donnes l'adresse, il se passe quoi? Tu vois, enfin, voilà. Et donc, les gens répondaient avec l'adresse. Sous 30 minutes, il y avait un camion qui débarquait, qui leur enlevait leur gravat. Wow effect incroyable. Ce truc-là, ça a fait x10 en termes de croissance. Et donc, t'es intrusif avec ce texto. Vas-y, donne-moi ton adresse, j'arrive. En plus, tu demandes l'adresse de la personne. Donc, t'es doublement intrusif. Mais il n'empêche que la personne, elle répondait en se disant, franchement, si c'est vrai, c'est trop beau pour être vrai. Et c'était trop beau pour être vrai, il y avait le wow effect, etc. Et donc, oui, t'es intrusif, mais c'est pas un problème. Et donc, tout est une question d'approche, tout est une question d'offre. Et ça, c'est vraiment hyper central, en fait.
D'où l'importance de bien connaître ces personas aussi en amont, de savoir comment est-ce qu'ils réagissent, dans quelle mesure, tu vois, ça peut être un bon canal. Sur cette partie-là, peut-être donc SMS, numéro de téléphone, comment est-ce que tu t'y prends pour choper les données et dans quelle mesure il te faut être précautionneux là-dessus?
Alors, je vais un peu... Ce qu'il faut, c'est être très stratégique là-dessus parce que, par exemple, je te donne l'exemple des adresses postales pour envoyer du courrier. En fait, choper des adresses postales, ça peut être un petit peu bancal pour différentes raisons, c'est-à-dire que ça peut arriver parfois que sur certaines entreprises, l'adresse du siège social soit pas la même que l'adresse des bureaux. Et donc, si en fait, tu vas choper l'adresse postale via typiquement société.com, Société Info, des outils comme ça qui en fait sont basés sur la base Sirène, en fait, si tu vas récupérer ces informations via la base Sirène, et en fait, tu vas envoyer du courrier, mais ton courrier, il va te revenir. Et ça m'est déjà arrivé. Donc, les premières fois que j'ai fait des expériences, je voyais les courriers qui revenaient, je me disais, mais est-ce que ça a été refusé? Est-ce que machin? Donc après, je contactais les gens par email en leur disant, vous avez refusé mon courrier? Non, en fait, c'est juste pas l'adresse des bureaux. Ah mince. Et donc, en fait, ce qu'il faut, c'est être assez malin pour, si la boîte, elle fait du télétravail, là, c'est vraiment la galère de chez galère, quoi. Donc là, dans certains cas, ça va être très, très compliqué et faut pas non plus s'enliser dans des trucs qui ont un peu ni queue ni tête. Là, il y a un ROI aussi de ton temps, le temps que tu passes. Tu sais, c'est comme les boîtes qui passent des semaines et des semaines et des semaines à faire en sorte que leur base de données scrappée, elle ait un taux d'enrichissement de 80%, alors qu'en fait, elles viennent de passer 3 semaines pour gagner 10%. Oui, enfin, en fait, t'aurais pu activer ta base day one et puis en fait, t'aurais fait le taf, en fait, t'aurais déjà eu des résultats. Donc, ce qu'il faut, c'est être un peu malin. Voilà. La deuxième chose, c'est scraper des numéros de téléphone. Pareil, parfois, ça peut être un petit peu galère. Donc, c'est pareil, faut être un peu stratégique là-dedans. Moi, généralement, ma vision, c'est de dire, je prends ce qu'il y a à prendre et puis ce que je peux pas prendre, tant pis, je vais pas passer des semaines et des semaines. Généralement, ce qu'il faut, c'est combiner des outils. Alors, les boîtes B2B qui sont un peu staffées, qui ont un peu d'expérience, etc. Généralement, quand elles font, par exemple, du scraping de base de données, bah, la bonne pratique qu'elles utilisent et qui est la bonne pratique que je recommande, c'est de faire de l'enrichissement en cascade. Mm-hmm. Donc, tu vas faire un premier scraping et un premier enrichissement via un outil. Puis la nouvelle base que tu vas avoir, tu vas la passer dans un nouvel outil, puis dans un autre, etc. Et tu as des outils qui sont plus puissants sur les numéros de téléphone, tu en as qui sont plus puissants sur les adresses postales. Donc en fait, tu vas un petit peu faire les choses en cascade pour, au fur et à mesure, remplir ta base de données. Mais ça sert à rien d'aller chercher le 100%. Tu vas, faut être stratégique, faut être malin, faut être efficace et faut prendre ce qu'il y a à prendre, quoi.
C'est quoi un petit peu les outils toi, que tu recommandes, encore une fois, sans faire de promotion ou autre, mais qu'est-ce que tu as utilisé par le passé qui a bien marché, dans quel contexte?
Moi, j'ai plein d'outils en fait que j'aime bien. Souvent, les gens, ils ont un outil un peu favori. Moi, franchement, il y en a plein que j'aime bien. J'utilise des outils comme Scaly, j'utilise des outils comme Société Info, comme Papers, comme... mince, j'aimerais bien les citer parce qu'ils sont top. Bon, bref, je me souviens plus. Faro, voilà, c'est ça. Faro, super outil. En plus, il y a une intégration avec HubSpot. Donc, en fait, tu peux faire ton enrichissement et balancer tout dans ton HubSpot. Drop Contact, évidemment. Lucha, plutôt sur les numéros de téléphone. Des outils comme Apollo. Alors, Apollo, ça va plutôt être sur de l'international. Et donc, tu vois, en fait, chaque outil présente un peu ses avantages et ses inconvénients, et donc moi perso j'en utilise généralement plusieurs et ça marche plutôt bien, quoi.
Super, je vais essayer de mettre tout ça en description. Est-ce que tu as peut-être un dernier conseil, tu vois, parce que j'ai l'impression que ce qu'on s'est dit là c'est utilisé par pas mal de boîtes dans le e-commerce et un peu moins dans les autres secteurs, tu vois, typiquement je sais pas moi le SaaS ou autre. C'est quoi qu'est-ce que tu peux nous partager comme dernier conseil dessus?
En fait, ce qu'il faut, c'est bien recentrer sur la proposition de valeur de la boîte. Et en fait, quand tu re-raisonnes bien, que tu as bien validé la proposition de valeur pour chacune de tes audiences, etc., tu peux trouver des choses qui peuvent être vraiment extrêmement intéressantes, des idées un peu originales que tu peux pousser sur du courrier, etc. Encore une fois, si je reprends l'exemple de l'artisan, en fait, on connaissait bien notre audience, on savait que tous les jours, elle remplissait des sacs de gravats et ensuite elle prenait du temps pour aller dans les déchetteries, faire le tri, etc. etc. C'est du temps qu'elle passe pas sur son chantier. C'est du temps où elle perd de l'argent, c'est du temps où, etc., etc. Donc en fait, on savait très bien que ça, c'était le vrai pain. Et donc en adressant une offre qui appuyait sur ce pain, eh ben, ça allait être bien. De la même manière, j'ai bossé avec une boîte sur laquelle on a fait du courrier, ça a très bien fonctionné, dont la cible était les RH. C'est une boîte sur laquelle on avait appuyé sur notamment un temps spécifique dans l'année qui est les entretiens annuels. Les entretiens annuels, aujourd'hui, la majorité des boîtes le font sur des Excel. C'est très très chiant à maintenir, c'est très très chiant à faire, etc. En fait, ce qu'on avait fait, c'est on a poussé par courrier un tableur Excel de résultats d'entretien annuel. Donc t'avais un tableur Excel avec la colonne de le prénom, le nom, qu'est-ce qu'il pense de son manager, qu'est-ce que machin, et donc ça te fait un espèce de tableur Excel rempli de données complètement illisibles, etc., etc. Et on avait joint à ce fichier Excel imprimé une petite carte postale avec écrit bravo pour votre campagne d'entretien annuel, mais maintenant on fait quoi de ça? Et en fait, nous, on poussait aussi le fait que, en fait, on va pouvoir vous aider à faire ressortir la bonne data de vos entretiens annuels, etc., etc. Et en fait, d'appuyer sur le pain de manière un peu marrante, originale, etc., en fait, c'est ça qui crée de l'intérêt, qui suscite, Donc, vraiment, le conseil, c'est travailler sur, c'est des trucs de base, mais travailler sur les pains, voir la proposition de valeur du produit, essayer de trouver une approche originale autour de ça, et voilà.
Génial. Bah écoute, merci beaucoup Jordan pour ces derniers conseils. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao.
Salut.
Si vous avez aimé l'épisode, pensez à noter Start to Scale 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour nous encourager ou envoyez-nous des étoiles sur Spotify. C'est ce qui nous aide à faire connaître l'émission et nous motive à chercher encore plus d'experts pour vous aider à scaler. À une prochaine pour un nouvel épisode.